Voilà, gloire à Dieu. Moi, je suis tout content ce matin parce qu'il y a les petits bébés dans l'assemblée. Et ça, c'est gloire à Dieu. Béni Emma ce matin. Bienvenue Emma. On va l'applaudir. Et bienvenue Victor. Quel cadeau, quelle grâce. Merci Seigneur. Et quand on a chanté dans tes bras d'amour, c'est quand même. Et ça c'est une belle réalité. Combien on est en sécurité dans les bras de notre Père Céleste. Il est merveilleux pour nous. Et donc ce matin, j'ai vraiment à cœur de vous encourager. Et j'étais dans mon lit ce matin, voilà, avec une heure de moi. Mais quand même, je me suis réveillé avec une parole. Et cette parole disait que le réveil est une chaîne générationnelle. Donc je dis, mais c'est quoi ça, une chaîne générationnelle? Et qu'est-ce que c'est le réveil? On ne sait pas finalement. On connaît les réveils du passé, de Pentecôte, le réveil du Pays de Galles, où il y a des milliers de conversions. Mais qu'est-ce que c'est le réveil à Wavrin aujourd'hui? Le réveil à Lille, à l'université, dans les usines, dans les universités. Qu'est-ce que c'est le réveil? Bon, le Saint-Esprit, il sait. Mais le réveil, c'est une chaîne générationnelle. Ça passe, c'est une synergie d'un côté de génération. Parce que même, je pense à Evan Roberts, voilà, il a vu 100 000 personnes sauvées en 3 mois au Pays de Galles, ou en 6 mois. C'est incroyable. Mais avant lui, peut-être il y avait des générations, des gens qui ont prié. C'est comme en Algérie, il y avait un réveil en Kabylie. Et on voit des milliers d'églises qui sont nées en Kabylie, en Algérie. Mais avant ce réveil, il y avait des générations qui ont peiné, sans rien voir. Et peut-être ils sont morts en disant, j'ai raté ma vie. Mais, et même pour notre église ici, moi, nous prions pour un réveil. Et même ce matin dans la louange, moi, j'ai dit, mais Saint-Esprit, t'es avec nous. J'avais envie de me mettre à genoux, d'être inondé, de prendre le bain, de me laisser partir un peu. Mais j'ai dit, je pense qu'on n'est pas loin. Et Dieu peut nous bénir ici. Mais quand il nous bénit, on est béni pour bénir, pour toucher les gens à l'extérieur et de toucher ce monde qui est tellement différent d'un côté de nous aujourd'hui. C'est différent de nos habitudes, mais Dieu a tellement à cœur. Et moi, je crois à ce réveil. Je crois à ce réveil. Et Dieu, il a toujours besoin de nous pour ce réveil. Il ne va pas le faire avec des anges juste comme ça. Il a besoin de nous dans toute notre petitesse, dans toute notre vulnérabilité. Et dans l'Ancien Testament, c'est comme si Dieu utilisait les Lévites. C'était des hommes appelés. Et si on peut juste vite regarder Nombre chapitre 8, et nous allons voir, c'est un chapitre qui parle de la consécration des Lévites. Et finalement, le réveil, ça a besoin des hommes et des femmes consacrés. On a besoin de cette consacration, cet engagement, ce désir d'être utilisé par le Seigneur. Et verset 16 de Nombre 8 dit, il parle des Lévites, car il me sent entièrement consacré au milieu des Israélites. Je les ai pris pour moi. Donc il y a un défi quand même de consacration. Parce que l'Église ne peut pas aller plus loin que nous. L'Église ne peut pas aller plus loin que ma propre consécration. Moi, je dois être consacré. Et si moi, je ne suis pas consacré, qui sera à ma place? Donc, il y a un défi, mais ça, c'est toute la beauté de ce chant. Il faut le Saint-Esprit, Seigneur. Parce que moi, je ne peux pas faire ça tout seul, mais je peux avoir soif. Alors, nous voici. Alors, nous voici, Seigneur. On est dans l'expectative. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas changer en moi? Et donc, c'est magnifique. Et donc, il dit, en verset 19, il dit, j'ai donné les Lévites à Aaron et à ses fils du milieu des Israélites. Et dans l'hébreu ici, c'est mal traduit en français, parce qu'il dit, j'ai fait un don de ces personnes. Ces personnes sont un cadeau. Ces personnes sont un don pour moi. Et le mot est Nathan. Quand tu t'appelles Jonathan, hein, il y a des Jonathan. Ça veut dire don de Yahweh. Et Nathan, ça veut dire don de Dieu. Et donc nous sommes des Nathan. Nous sommes des Nathan. Ça veut dire on est des dons. On est des dons de Dieu. Dieu veut nous utiliser pour être un cadeau autour de nous. Et il y a les gens en Afrique qui s'appellent Dieu donné. Oh, don de Dieu. Ça, c'est un nom souvent qu'on a. Vous connaissez les dieux donnés, hein? Je ne sais pas si celui qu'on connaît est un vrai don de Dieu, mais quand même, ça, c'est à discuter. Mais c'est super de dire, est-ce que je suis vraiment un cadeau pour ceux qui sont autour de moi? Est-ce que je suis un cadeau dans ma famille? Est-ce que je suis un Nathan? Est-ce que je suis un Nathan pour ceux autour de moi? Et ça me fait penser à Éphésiens 4, 8. Vous connaissez bien ce passage quand il parle des ministères. Et on va juste le lire vite fait, Éphésiens 4, et verset 8. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Et après, il parle de tous les ministères, pasteurs, enseignants et tout le reste. Mais pour moi, je ne veux pas appuyer toutes la variété des ministères, mais je veux appuyer, on est des dons. Et donc ce côté don des Lévites est transféré aussi dans le Nouveau Testament. Chacun de nous, on a un potentiel d'être un don pour l'autre. C'est fantastique. Jésus n'est pas passif. On partage le pain, on peut donner une bonne parole, un encouragement. Et surtout, nous, on peut donner le don de la vie aux autres, le don de Jésus. C'est ça le ministère, être un don pour l'autre. C'est pas juste dire, oh, j'ai 30 000 capacités, voilà, j'ai fait une théologie. C'est bien si vous avez fait la théologie, mais il faut être un don de Dieu. Ça, c'est le vrai ministère. Pour ceux qui aspirent à un ministère, aspirer à être un don pour l'autre personne. Mais après, quand je lisais ce passage, je suis tombé sur un passage qui est très précis en verset 24, nombre 8, 24. Et je vais le lire. Voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera en fonction pour faire le service de la tente de la rencontre. À partir de l'âge de 50 ans, et donc ça nous intéresse, hein? À partir de 50 ans, qu'est-ce que tu as pour moi, Seigneur, à partir de 50 ans? Il cessera ses fonctions. Qu'est-ce que je fais devant vous ce matin? Il cessera ses fonctions et ne servira plus. Oh mince. Mais en même temps, c'est super aussi pour les jeunes qui sont avec nous. Parce que je pense qu'il y a un bloc d'années, 25 années. Vous imaginez 25 ans à 50 ans, ce que vous pouvez faire. 25 années. 25 ans jusqu'à 50 ans. Vous pouvez vraiment être un pionnier, changer le monde. C'est passionnant, non, de penser à ça. Et quand j'ai dit, ça commence à 25 ans, parce qu'avant 25 ans, on est en formation. Je pense que Dieu veut utiliser les gens de 15 ans ici, 16 ans. Bien sûr, il veut les utiliser. Mais je pense pour diriger une église à 15 ans, c'est un peu tôt. Mais je pense à 25 ans, c'est à l'âge où tu peux vraiment faire quelque chose. Moi, je pense 25 ans, moi je prie pour les gens de 25 ans qui peuvent commencer un ministère à 25 ans et faire 25 années de ministère. Super. Il faut que nous, en tant qu'église, c'est pas au niveau des coréennes, combien ont 25 ans ici, mais vous êtes au seuil d'une vraie victoire. Et vous imaginez 25 années de ministère devant vous. Alléluia. Et donc, pour tous les gens qui ont 25 ans, ils sont contents ici. Mais qu'est-ce que nous, nous faisons, les gens de 50 ans? Oh, bon, si vous avez 49, vous avez encore une année. Bien sûr, je ne veux pas être trop dogmatique. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Quand j'ai réfléchi à ça, moi j'ai 55 ans. Ma femme a 56. Pourquoi il fallait se retirer après 50 ans? Pourquoi? Moi j'ai deux raisons. Je vais vous lire un proverbe africain. Si un petit arbre est sorti de la terre sous un baobab, il meurt à briseau. Je vais le relire. Si un petit arbre est sorti de la terre sous un baobab, il meurt à briseau. Pourquoi? Il y a trop de place, hein? Et je pense honnêtement, quand vous avez 50 ans, vous êtes en pleine capacité. Quand vous êtes un homme ou une femme de Dieu, là, vous avez beaucoup d'expérience, vous pouvez faire beaucoup de choses, vous avez marqué votre génération et vous pouvez prendre toute la place et il n'y a pas de lumière, vous êtes trop grande. Donc, il n'y a que des petits arbrisseaux qui peuvent pousser, mais il n'y a pas assez de lumière parce que vous prenez tout. Et quelquefois, on peut voir ça dans l'histoire de l'Église, que quand les gens restent un peu trop longtemps, c'est la crise quand ils meurent. Il n'y a que des petits arbrisseaux qui restent. Et on a une Église de 3000 personnes qui a besoin d'être dirigée par un ministère. Et finalement, il n'y a que des arbrisseaux. Après, il y a des divisions et voilà. Et donc, ça, c'est une raison. C'est parce qu'on a une influence trop grande et il faut faire autre chose. Il faut faire autre chose, il faut laisser la place. Et l'autre raison, à mon avis, il y a plusieurs raisons, mais c'est aussi la distance culturelle devient trop grande avec la société actuelle. Que les gens qui sont plus âgés, même s'ils essayent d'être modernes, ils ne sont pas imprégnés avec la culture de ce temps. Et donc c'est très 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 bien d'avoir les gens un peu plus jeunes, sinon on crée des institutions qui sont dans un paradigme qui est complètement extraterrestre avec ce que la plupart des gens vivent. Et aussi, le gars à 50 ans, surtout à l'époque où les gens vivaient moins longtemps que nous, ils allaient mourir. Et donc, Dieu disait, allez, il faut créer quelque chose pour l'avenir. Et donc voilà, je vous ai découragé, hein, parce que nous, on est un... J'ai dit, voilà, je vais partir, là, je vais aller à la maison de retraite pour les vieux lévites. Mais voilà, je vais vous dire, et quand même, on n'est pas, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a dit, on n'est pas foutu à 50 ans. Tu vois? Et donc, si Nicolas Sarkozy l'a dit, c'est pas la Bible, bien sûr, mais... Ça doit être très inspiré. Et surtout, quand toi, tu es là à 50 ans et tu entends, on n'est pas foutu à 50 ans, j'ai dit, alléluia. Mais pourquoi on n'est pas foutu? C'est parce qu'il y a autre chose à faire. Et je vais vous donner 7 choses que vous faites après 50 ans. D'accord? 7 choses. Donc là, on va changer de passage biblique. Il faut aller en Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2. Et à partir de verset 25. Et c'est l'histoire de Siméon. Siméon avait plus que 50 ans. Siméon, peut-être il était sans doute un lévite qui était... Siméon, ça veut dire chamar, écouter. Et donc, je vais lire son histoire à partir de Luc, chapitre 2, 25. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne verraient pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut. C'est magnifique, hein? On est très prophétique ce matin. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: Voici, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était d'un âge fort avancé. Voilà, même si on a un âge fort avancé, c'est pas fini. C'est loin d'être fini. Après avoir vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, elle resta veuve. Même quand elle avait quand même une sorte de tragédie dans sa vie. Mais cette tragédie ne l'a pas empêchée de servir. Âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières. Alléluia. Alléluia. Les jeûnes et les prières. Mais on regarde Siméon là, 7 choses, hein, je vous donne 7 choses pour Siméon. La première chose, Siméon, il a un grand capital spirituel. Comme je disais, à 50 ans normalement, on a un capital, on a un grand capital. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de Siméon? Cet homme était juste. Le mot c'est diakaïs en grec. Il était juste. Il était pieux. C'est quand on dit pieux aujourd'hui, c'est un mot qui a été dévalorisé. Oh, il est très pieux. C'est, oh, il est pieux. Oh, c'est une connotation un peu négative. Mais il faut changer ça. Il faut changer ça. C'est parce que le mot en grec, c'est eulabas. Eulabas. Et ça veut dire, eux, c'est quelque chose de bon. Et la base, c'est saisir. Avec un peu de même violence, quelque chose qui est bon. Donc les gens qui sont affamés, hein, il y a un bon, c'est pas coq au vin et vous avez faim, vous allez saisir ça. Je veux manger le coq au vin. Mais il faut saisir ce qui est bon. Il faut saisir la parole, la prière. Il faut saisir la communion fraternelle. Saisir, avoir une énergie en nous pour saisir ce qui est bon. Combien de gens saisissent ce qui est mauvais? Ils ont une énergie pour saisir des choses mauvaises, inutiles, vaines. Mais être pieux, c'est avoir simplement, c'est pas d'être toute vidée de sang. Non, c'est être rempli de sang et d'énergie pour saisir ce qui est bon. Et Siméon, il était un homme qui savait saisir ce qui était bon. Juste, pieux. Il attendait. Il avait cette capacité d'attente. Et encore là, attendre, c'était avec pour accueillir. Ce n'était pas une attente passive. C'était une attente de foi. Il était pleinement convaincu que Dieu avait préparé quelque chose pour lui. Et donc, après 50 ans, vous avez cette capacité d'attendre. D'attendre. Parce que vous avez déjà attendu 50 ans. Donc là, vous avez développé. À 25 ans, voilà, c'est facile. Il faut être un peu impatient à 25 ans. Mais à 50 ans, vous pouvez attendre. Il était un homme roi. Hein, l'Esprit Saint était sur lui. C'est toujours le premier point capital. Il était roi. Si vous voyez dans le passage, l'Esprit Saint était sur lui. Averti par le Saint-Esprit, poussé par l'Esprit. Il y avait cette onction, sur sa vie. Il y avait un capital spirituel. Donc ça, c'est la première chose. Vous avez un capital. Je l'espère, hein. Il n'y a rien de plus triste de voir quelqu'un qui a été chrétien pendant 30, 25 ans. Allez, le capital qui est là. Le capital qui est là. Et après, la deuxième chose, il attendait la consolation d'Israël. Et ça, c'est le même mot, paraclète. Paraclète. C'est le mot qu'on utilise pour le consolateur, le Saint-Esprit. Il attendait la consolation d'Israël. Mais je pense à 50 ans, on a été trop blessés par la vie. À 50 ans, on a eu le temps d'être très, 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 très blessés. Et donc, c'est bien qu'à 50 ans, on attend aussi la consolation de nos blessures. La consolation de nos blessures. Et si vous voulez juste vite regarder en Jean 14, c'est Jésus, il dit quelque chose. Verset 18 de Jean 14. « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. » Alléluia. Et ça, c'est le deuxième point. Pour l'homme, le ministère de 50 ans, il ne vous laisse pas comme orphelin. Parce que quelquefois, on peut avoir une solitude. On peut dire, oh, c'est trop tard. On dit, oh, tout ce que j'ai vécu. Mais Jésus vous dit ce matin, je ne vous laisse pas comme orphelin. Je viens vers vous. Et après, en verset 16, il dit, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Et donc, pour tous les Siméons avec nous ce matin, il ne vous laisse pas comme orphelin. Il vous console. Il vous console. Et Siméon, il était là, attendant la consolation d'Israël. Alors ça, c'est le deuxième point. Soit celui qui attend et qui reçoive la consolation. Troisième point, hein, toujours en Luc. Hein, il dit... Maintenant, maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Non, pardon, c'est verset 26. Le Saint-Esprit lui avait dit qu'il n'allait pas voir la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Donc voilà, je veux simplifier ça et dire, il ne faut pas mourir sans avoir vu Jésus. D'accord? C'est terrible de mourir sans avoir vu Jésus. Mais Siméon, il dit, oh, je ne vais pas mourir sans avoir vu Jésus. Et ça, c'est prophétique pour nous tous. Il ne faut pas mourir sans avoir vu Jésus. Parce que même si je meurs, si j'ai vu Christ, c'est comme l'apôtre Paul, il dit, vivre c'est Christ, mourir m'est un gain. Parce que quand tu as vu Jésus-Christ dans le cœur, quand tu es sauvé, quand tu crois en lui... Voilà, qu'est-ce que c'est la mort? C'est vrai, c'est triste pour les autres, c'est triste. Mais la mort n'a pas le dernier mot. Christ a le dernier mot et c'est un mot de résurrection et de victoire. Et donc, à 50 ans, tu dois avoir cette victoire contre la mort, cette assurance que voilà, j'ai pas peur de la mort, j'ai pas peur de mourir. Combien de personnes âgées ont peur de mourir parce qu'ils n'ont pas vu le Christ? Mais Siméon a dit, tu m'as dit que je vais pas mourir sans avoir vu le Christ. Et Dieu vous dit, vous avez vu le Christ. Vous avez vu le Christ. Et donc que les derniers âges soient des âges, soient des années de bénédiction et de foi et de victoire dans la résurrection. Même face à la maladie, même face à toutes les choses qui nous humilient quelquefois, nous avons au milieu de tout ça, nous avons vu le Christ. Et je pense quand on est plus âgé, notre déclaration de notre foi dans la résurrection est encore plus grande. Encore plus grande. Ça, c'est la troisième chose. On a la foi vraiment en Jésus-Christ. On n'a pas peur de mourir. Verset, la quatrième chose. Il dit, poussé par l'Esprit. Poussé par l'Esprit. On n'est pas trop vieux pour être poussé par l'Esprit de nouveau. Je vous encourage. Poussez pas. Où est-ce que, je vous pose une question, où est-ce que le Saint-Esprit vous pousse? Il vous pousse en quelle direction? Parce que c'est bien de... Siméon, il est là, il est sensible. Il ne faut pas perdre votre sensibilité. Mais il faut être ouvert pour être poussé dans une nouvelle direction, ou dans une direction prophétique, ou dans une direction. Là, il attendait, mais à un moment donné, il était poussé par l'Esprit. Il écoutait, voilà, je dois aller là. Et je pense, ça m'encourage énormément de voir qu'on peut être poussé par l'Esprit, même après 50 ans, pour servir Dieu d'une certaine manière, décisif, apportant toute notre capital. Donc voilà, ça c'est quatrième chose, on est poussé par le Saint-Esprit. Et vous pouvez vous poser la question cette semaine, où est-ce que, quelle est la direction vers laquelle le Saint-Esprit me pousse en ce moment? Réveillez votre sensibilité. Cinquième chose, c'est le meilleur verset, verset 28. Il le reçut dans ses bras. Il était poussé vers le petit Christ, vers une nouvelle saison. Il était là. Et je dirais, la cinquième chose, c'est reconnaître, recevoir et bénir le petit Christ qui apparaît humblement. Reconnaître, recevoir et bénir le petit Christ qui apparaît humblement. Parce que Dieu est à l'œuvre autour de nous. Et dans des maisons, dans des foyers, dans les chemins de la vie, il y a les petits Christ qui naissent. Il y a les gens qui sont touchés par le Seigneur. Et peut-être poussés par l'Esprit, nous pouvons accueillir la nouvelle génération, accueillir l'œuvre fraîche que Dieu est en train de faire. Ça, c'est la chose la plus belle pour les personnes après 50 ans. Je dis 5 ans jusqu'à 120. Hein, c'est d'être une personne qui peut encourager, encadrer, distinguer le petit Christ qui est en train de naître. Il y a des petits Christ qui sont en train de naître partout en France. Et au lieu d'être dans notre coin, on doit être poussé vers ces gens et de les prendre dans nos bras, de les bercer et d'être content. Et dire, voilà, utilise-moi Seigneur pour bercer la nouvelle génération. Et je pense qu'en Romains 4, on va le voir juste, 4:17, Romains 4:17. Parce que pour moi, bon, c'est fantastique ce matin d'avoir vraiment deux petits bébés. Hein, c'est vraiment bien, il y a tout un avenir là. Mais ça, c'est prophétique de ce qui se passe spirituellement aussi. Mais au milieu de nous, à long terme, si je dis, mais moi je prie, je dis, mais Seigneur, j'aimerais bien avoir 10 personnes engagées qui ont entre 25 ans et 28 ans pour prendre des responsabilités. Tout ça, c'est vraiment ma prière en ce moment. Mais quand je regarde, je dis, mais j'ai beaucoup de Siméons. J'ai beaucoup de Siméons. Alléluia, alléluia. Et donc, il faut que quelque chose se passe. Et il faut regarder verset 17 de Romains 4, quand il dit, le deuxième, il est notre Père à tous devant Dieu, en qui il a cru, qui donne la vie, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Waouh! Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et ça, c'est le ministère de Siméon. C'est un ministère de foi et de prière, d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. D'être poussé par le Saint-Esprit, de déceler l'opportunité. Toutes les autres lévites, oh, c'est des pauvres gens, ils nous embêtent avec leur bébé. Ils achetaient quelques tourterelles parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour le vrai sacrifice et tout ça. Et donc, peut-être ils auraient été ignorés par 90% des gens, mais Siméon, il les a vus. Et je pense pour nous, on doit vraiment appeler à l'existence les choses qui n'existent pas encore. Et ça, c'est notre force dans la prière, dans l'accueil, dans l'expectatif, de dire, Seigneur, j'appelle au nom de Jésus à l'existence 10 personnes qui ont 25 ans dans notre église. Bon, ça semble une folie, mais ça arrivera. Parce que ça, c'est le ministère de Siméon. C'est d'accueillir la génération future. Et même si, visiblement, ça n'existe pas, ça, c'est pas grave. nous nous croyons à l'invisible, nous marchons par la foi. Mais je pensais d'avoir une foi collective qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Et donc, sixième point, presque à la fin, sixième point. Il dit, maintenant, maître, après avoir béni, accueilli la nouvelle, le petit Christ, la nouvelle saison, maintenant, maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. C'est en latin, on dit « nune dimittis ». Je ne sais pas si vous dites ça dans l'église anglicane, on dit ça. C'est surtout aux enterrements. On dit « laissez partir votre serviteur en paix ». Et moi, je dirais, comment, après 50 ans, je peux avoir la paix? Comment est-ce que je peux avoir la paix, vraiment dans le cœur, d'avoir le shalom, d'avoir cette sérénité, cette dignité, cette autorité de l'âge? C'est de savoir que, voilà, Seigneur, je sais que je suis à l'œuvre. Il y a une descendance. Mes yeux ont vu la gloire d'Israël. Mes yeux ont vu la lumière pour les nations. Et donc, le sixième point, c'est d'avoir la paix et c'est d'avoir une vision de la mission, une vision du salut et une espérance pour l'avenir. C'est la pire chose, c'est de mourir sans espérance. Et même en tant que chrétien, de dire, oh, mais après moi, c'est le déluge. Mais je dis, non, après moi, ce n'est pas le déluge. Ou si c'est le déluge, c'est le déluge du Saint-Esprit. Et je dirais d'inculquer en nous qu'après nous, il y a la mission. Et on peut préparer cette mission. Lumière pour les nations. Salut pour les nations. Seigneur, je veux partir en paix. Et ça, c'est merveilleux de voir ce ministère de Siméon qui est tranquille et qui a la foi pour l'avenir. Quelle autorité, quel déclenchement d'un côté, quel encouragement. Et donc, la sixième chose, c'est la vision du salut. Et la septième chose, et dernière chose, c'est un homme qui bénit prophétiquement. Et c'est quelle force. C'est gloire à Dieu pour les 25, 50, tu as de l'énergie pour être un pionnier. Et ça, c'est très bien. Et de maintenir, d'enfanter des œuvres fantastiques. Mais je pense qu'il y a une deuxième phase d'une vie où on est peut-être moins engagé, moins impliqué directement, mais où on a cette autorité de bénir, et de bénir prophétiquement par nos paroles et par nos actions. Et ça bénit même nos familles d'avoir l'autorité de l'âge, qui n'est pas toujours en train de tout faire. Ça énerve. Hein. Quand il y a la belle famille qui veut tout faire, c'est énervant. On veut tout contrôler, qui veut être toujours le béobab, là, qui... affreux. Mais quand quelqu'un peut juste bénir, prier, être là comme la sagesse, ça c'est le cadeau d'une famille chrétienne. Ça c'est le cadeau de quelqu'un qui a appris à jouer le rôle de Siméon. Homme ou femme, hein, il y a des Siméons et les Siméones. Et Siméon de Beauvoir, non. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il bénit. Il prend 34. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant. Voilà, il donne une prophétie. Il parle même de la croix. Comment est-ce que les gens pensaient que le Messie allait être crucifié? Mais il a cette sagesse prophétique. Mais il bénit d'une manière prophétique. Et je dis, mais quelle force! Et je dis, même nous, dans notre église, on a une force. Parce qu'on a beaucoup de Siméon. Moi y compris. Moi, je suis... Vraiment, la date limite de vente est déjà marquée. Hein. Il faut pas m'acheter. Hein. Pour être pionnier, pasteur devant tout le monde, hein, c'est date limite de vente. Hein, date limite de vente. Mais bon, je le fais parce qu'on appelle à l'existence. Le pasteur de, de 28 ans, 29 ans, 30 ans qui va prendre la relève. Hein. C'est ça. Et toutes les équipes dirigées par les gens qui ont la vision, l'énergie, l'impatience, l'erreur, stupidité quelquefois. Mais alléluia! Parce qu'il faut donner la place pour que les gens puissent vivre 25 années de puissance. Mais derrière, on accueille, on est là, on est solide. Quel ministère important! On n'est pas juste à attendre bêtement, mais attendre le réveil. Et le réveil, c'est la chaîne. C'est la chaîne des générations. On a besoin de tout le monde là-dedans. Et donc voilà, je ne vous laisserai pas comme orphelin. On n'a pas à attendre la tristesse. On n'a pas juste à craindre la fin des choses, mais on peut saisir l'autorité que Dieu nous donne. Il peut nous qu'on soit poussé maintenant. Je vais terminer en priant que chacun de nous soit poussé, qu'on retrouve cette sensibilité de l'esprit pour être poussé vers l'avenir, pour accueillir, bénir la nouvelle génération montante. D'accord? Seigneur, merci pour cette église. Merci ce matin, Seigneur. Merci pour tous les jeunes. Et Seigneur, merci pour la réalité des jeunes hommes et de jeunes femmes engagés pour toi, Seigneur, dans ta grâce. Et je veux appeler à l'existence, Seigneur, dans cette église, tout un avenir, dans ces prochaines 3 années, Seigneur. Nous voulons appeler à l'existence toute une dynamique de responsables, des gens en formation qui ont 25 ans, 28 ans, Seigneur, 35 ans. Mais Seigneur, nous les appelons à l'existence maintenant. Et comme des Siméons, Seigneur, nous voulons les prendre prophétiquement dans nos bras. Nous voulons accueillir cette vision de salut, de lumière pour les nations. Nous voulons accueillir, Seigneur, cette vision du réveil, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, et nous mettons tout notre capital spirituel, tout ce qui a été accumulé pendant des années ici, Seigneur, et dans nos cœurs. Et Seigneur, console-nous. Console-nous, Seigneur. Tu vois aussi tout ce qui nous a blessés. Combien des Siméons ont reçu des coups, Seigneur. Mais Siméon, il avait reçu la consolation. Et Seigneur, tu ne nous laisses pas comme orphelins, mais tu viens vers nous. Viens vers nous maintenant dans ta parole. Viens vers nous, console-nous et donne-nous, Seigneur, une nouvelle sensibilité à ton Saint-Esprit pour qu'on soit poussé là où tu veux qu'on aille, Seigneur. Poussé pour créer des œuvres que tu as préparées d'avance, Seigneur. Encadrer, bénir prophétiquement tout ce qui est en train d'émerger. Oh Seigneur, merci. Seigneur, tu es un Dieu diversité. Surprends-nous, Seigneur. Surprends-nous. Merci parce que ton horizon est beaucoup plus grand que dimanche matin. Ton horizon est beaucoup plus grand même que notre Église. Et tu peux utiliser beaucoup de nous dans toutes sortes de zones et de frontières et d'activités qui sont même insubstantiables pour nous en ce moment. Mais tu peux nous utiliser, Seigneur. Et je te demande de nous surprendre, de nous renouveler. Et je veux te dire merci pour le ministère des Siméons. Merci pour ces ministères clés, Seigneur. Merci, Seigneur. Bénis toutes les Siméons ici, au nom de Jésus. Et bénis toutes les jeunes ici aussi, au nom de Jésus. Amen. Amen.